Bonjour et merci à tous d'être venus. Au nom des organisateurs, j'espère que vous passerez une journée intéressante et enrichissante. Et d'abord, désolé pour mon accent. Nous commencerons la journée par un court-métrage dans lequel le professeur Mohamed Ali Amir Mouezi, un islamologue et spécialiste des religions iraniennes, vivant en France et spécialisé dans la théologie chiite. Il est diplômé de l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris et a obtenu un doctorat en islamologie à l'École pratique des hautes études et à l'Université de Paris III. Il est directeur d'études à l'École pratique de hautes études, section de sciences religieuses, où il est titulaire de la chaire de l'exégèse et théologie de l'islam chiite. Son département d'études est le seul consacré au chiisme dans le monde universitaire occidental. Il est membre de l'Académie Ambrosiana de Milan, ainsi que l'éditeur et l'un des principaux auteurs du Dictionnaire du Coran, publié à Paris en 2007. Il est aussi rédacteur, avec Guillaume Di, l'ouvrage Coran des historiens, le premier essai de faire un commentaire scientifique du Coran.
Pourquoi il y a eu tellement de guerres, fratricides entre les musulmans? Là, je pense que, là aussi, une piste, est à chercher dans le message de Mohammed. Très probablement, les premiers messages, peut-être aussi jusqu'à la fin, en tout cas les couches les plus anciennes du Coran, bien que sur le plan de la langue, ont une dimension apocalyptique extrêmement forte. Là, je pose des problèmes parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je pourrais être lié à temps pour l'échange. Je présente la problématique sous forme d'un syllogisme. Premier élément, Mohammed est venu annoncer la fin imminente du monde. Ce terme est très lourdement présent dans le Coran. Ça, on l'oublie. Très, très lourdement. Il ne s'agit pas de un ou deux versets, de une ou deux sourates, mais de dizaines de sourates et de dizaines de versets. C'est-à-dire, nous avons, à quelques exceptions près, les 35 dernières sourates du Coran. Ce sont les sourates courtes que notre ami Michel Kuiper s'appelle l'apocalyptique coranique. Ce sont des sourates apocalyptiques qui annoncent la fin imminente du monde. Et puis, il y a énormément d'autres versets qui parlent aussi de la fin du monde. Et puis, nous avons des centaines de hadiths, surtout les couches anciennes de hadiths, qui nous parlent aussi de la fin, et je souligne l'adjectif imminente. Hein, la terminologie qui est utilisée également montre cette imminence. Asra, qu'on traduit par l'heure, mais ça veut dire aussi l'instant, hein, c'est-à-dire ce qui est immédiat. Azika, ce qui est en train de tomber. Waqia, ce qui tombe. Ce sont des termes qui sont utilisés pour dire la fin du monde. Et de ce point de vue-là, cette partie apocalyptique du Coran appartient à son temps. Tout le monde pense que c'est la fin du monde à cette époque. Nous avons, à la même époque, 6e, 7e siècle, des textes juifs qui parlent de la fin imminente du monde. Il n'y a rien d'allégorique ou de symbolique ou de mystique. Hein. C'est-à-dire, quand on parle de la fin du monde, c'est la fin du monde. Donc, la demande du pardon, venez, les gens, repentez-vous, etc. La colère de Dieu est en train de survenir. Et donc, pour que vous soyez épargnés par la colère de Dieu et le jugement, repentez-vous, etc. Soyez bons les uns avec les autres, priez, etc. Des textes juifs, des textes zoroastriens qui nous parlent du monde, et surtout des textes chrétiens de langue syriaque. Des dizaines d'apocalypses syriaques qui datent du 6e, 7e siècle, donc exactement contemporains de Mohammed. Alors pourquoi, probablement, il y a une ambiance de fin du monde à cette époque. des guerres interminables entre ces deux grands empires, hein, Byzance et Iran, avec leur lot de massacres, de déportations, de maladies, de viols, etc. On sait qu'il y a eu deux épidémies de peste. Des études géologiques montrent qu'il y avait eu beaucoup de tremblements de terre, deux éclipses de lune et de soleil. Donc vous voyez, il y a une ambiance de fin du monde dont dans tous les milieux religieux, chrétiens, juifs, zoroastriens, avec les textes à l'appui. Donc premier terme de mon syllogisme, annonce de la fin du monde. Deuxième terme, Mohammed appartient à une tradition biblique. Contrairement à ce que dit la tradition islamique sur l'Arabie pré-islamique, l'Arabie pré-islamique n'est pas une terre d'ignorance, que les sources appellent Al-Jahiliya. L'Arabie se trouve entre les grandes civilisations monothéistes de l'époque, entre la Byzance et le Yémen, entre l'Éthiopie et l'Iran, c'est-à-dire les foyers les plus éblouissants de la culture et de la civilisation monothéiste. Donc, contrairement à ce que dit la tradition islamique, mais ça c'est de l'apologétique, hein, c'est toujours comme ça, avant nous il n'y avait rien, après nous il y a tout. Donc, les Arabes étaient des adorateurs de Bétil, de pierres, d'arbres, ils enterraient vivantes leurs filles, tout ça. On sait que c'est absolument faux. Il y a des preuves archéologiques, épigraphiques, et puis la preuve absolue de ça, c'est le Coran lui-même. C'est-à-dire à côté de deux ou trois versets qui nous parlent des idoles de l'Arabie pré-islamique, deux ou trois. Nous avons des centaines et des centaines de versets qui nous parlent d'Adam et d'Ève, de Noé, de Jonas, de Job, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, de Zacharie, de Marie, etc. Avec, donc, en plus, les récits allusifs. C'est très important. C'est-à-dire, ce que nous dit le Coran au sujet d'Abraham ou de Moïse, ce n'est pas l'histoire de ces prophètes. Si on reconnaît l'histoire d'Abraham, le Coran ne nous apprend rien. Si c'est allusif, c'est-à-dire que les gens qui l'écoutent connaissent cette histoire. Donc il y a des allusions simplement sur certains épisodes de la vie de ces personnages bibliques que le Coran veut commenter en quelque sorte. Quand le Coran parle de Jésus, il dit « Il est le Verbe de Dieu, Kalimatullah. Il est l'Esprit de Dieu, Ruhallah. » Ce sont des notions christologiques extrêmement compliquées. Que comprendrait un adorateur de Bétil, n'est-ce pas, ou de Pierre, quand on lui dit « Jésus, le Christ, Al-Masih, et le Verbe de Dieu. » Et en plus, au niveau lexical, donc ces histoires-là sont connues, bien sûr, de l'auditoire, et très bien connues, même de manière textuelle, ça on le dit mille fois dans le Coran des historiens. Au niveau lexical aussi, le mot pour un n'est pas arabe. Vous savez, on croit que certains mots sont arabes parce qu'ils sont venus dans l'arabe à partir du Coran. Mais avant le Coran, ces mots n'appartiennent pas au vocabulaire arabe. Le mot Coran vient de Qur'an, syriaque, c'est un livre de prière. Le mot sourat, surat, chapitre du Coran, n'est pas arabe, c'est du syriaque. Le mot aya, dans le sens de verset, n'est pas arabe, c'est du syriaque. Dans le sens de segment de prière. Le mot zakat, au mot, qui s'écrit d'ailleurs zakot, comme dans le syriaque, c'est du syriaque, au mot. Salot, qui s'écrit salot, comme dans le syriaque, ça veut dire prière quotidienne. Le mot hajj, grand pèlerinage à la Mecque, c'est de l'hébreu, ça veut dire grand pèlerinage. Le mot omra, petit pèlerinage, c'est de l'hébreu. C'est-à-dire que ces mots, avec une charge religieuse très forte, proviennent de l'hébreu et du syriaque, c'est-à-dire de la langue des juifs et des chrétiens. Donc cette tradition biblique est extrêmement présente. C'est dans ce sens-là que l'on dit que Mohammed appartient à une tradition biblique. Le pauvre, il ne dit pas autre chose lui-même. Il dit « Je suis le continuateur de Moïse et de Jésus. » Et le Coran est le prolongement de la Torah et de l'Évangile. Alors, c'est très probable que ces sourates, où il y a énormément de syriens et d'hébreux, qui parlent de la fin du monde, de la fin imminente du monde, et ces hadiths qui nous parlent de la fin imminente du monde, soient vraiment authentiques, remontent vraiment à Mohammed ou à son entourage immédiat. Pourquoi ? Parce que finalement, la fin du monde n'est pas arrivée. Donc les musulmans postérieurs n'avaient aucun intérêt à forger ou à écrire ces parties du Coran apocalyptique ou à forger ces hadiths qui finalement décrédibilisent le prophète, puisque la fin du monde n'est pas arrivée. Donc nous avons affaire peut-être vraiment à des textes authentiques qui nous parlent de la fin du monde et qui appartiennent à la tradition biblique. Donc, annonce de la fin du monde, appartenance à une tradition biblique, la conclusion du syllogisme, c'est que on ne peut pas parler du Messie. On ne peut pas appartenir à une tradition biblique, annoncer la fin du monde et ne pas annoncer la venue du Messie. Pourquoi je le dis de cette manière négative ? Parce que, curieusement, le Coran n'en parle pas. Ça a posé problème. Dans le Coran, Jésus est appelé le Messie, Al-Masih. D'ailleurs, toujours, le Coran ajoute « fils de Marie », pour ne pas dire « fils de Dieu ». Donc, nous avons une christologie non trinitaire. Mais c'est une christologie. Christologie non trinitaire, on le trouve chez les historiens, chez les arianistes, chez les montanistes, etc. Donc, ce n'est pas une christologie coranique, hein, ça existe avant. Mais le Coran utilise le mot Massir pour qualifier Issa comme son nom de famille. Et Issa le Massir. Issa le Christ. Et on ne dit pas qu'est-ce que ça veut dire le Massir. Le Massir, ça veut dire le sauveur de la fin des temps. Surtout dans un contexte apocalyptique. Alors ça a posé problème. Un certain nombre de savants, à commencer par Casanova dans les années 1900, pensaient que le Coran parlait du Christ en tant que sauveur de la fin des temps. Pourquoi ? Parce que le Coran n'en parle pas, mais le Hadith en parle beaucoup. Là, il y a une contradiction flagrante entre le Coran et le Hadith, le propos prophétique, où nous avons des centaines de Hadiths qui sont probablement authentiques, qui parlent aussi de la fin du monde et de la venue du Messie, du Sauveur, et ce Messie est Jésus. Dans les couches anciennes des traditions prophétiques, la venue, l'avènement du Messie est annoncé et ce Messie est Jésus. Là aussi, ces hadiths ont toutes les chances d'être authentiques parce que les musulmans postérieurs n'avaient aucun intérêt de forger les hadiths et le mettre dans la bouche de leurs prophètes en disant que c'est la fin du monde et que Jésus va venir vous sauver. Puisque plus tard, on islamise la figure du Messie. Le Messie n'est plus dans les couches les moins anciennes de l'Hadith, n'est plus Jésus, mais c'est Mahdi, Al-Mahdi, soit un descendant du prophète. Alors les choses se compliquent encore plus parce que, probablement, nous avons des textes là aussi, pour un certain nombre de partisans de Muhammad, Ali, donc son gendre, celui qui va devenir le quatrième calife et qui est le premier imam des chiites, et le père de la seule descendance mâle du prophète, donc c'est un personnage important, pour certains noms des fidèles de Muhammad, Ali est le nouveau Jésus. Donc vous voyez combien les choses sont compliquées. Nous avons des textes où Ali dit lui-même, Ana Issa wa Issa Ana, je suis Jésus, Jésus est moi. C'est-à-dire, je suis le nouveau Messie, ce qui a fait de Jésus, de Nazareth, le Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit descendu en lui, a fait de moi le nouveau Christ et le nouveau Jésus. Alors le prophète meurt, annonciateur de la fin des temps, les guerres civiles commencent, les conquêtes commencent, un empire est né, on change de paradigme. Un état solide est mis sur pied, Il est gouverné par ceux qui étaient historiquement les ennemis du prophète, c'est-à-dire les Omeyyades. Et on sait qu'un État solide n'aime jamais que le monde prenne fin. Donc, on commence à forger peut-être une nouvelle mémoire collective et un nouveau passé. On essaie de faire oublier les aspects messianiques du message de Mohammed. Et en plus, surtout, celui qui certains considéraient comme le Messie, c'est-à-dire Ali, à ses propres partisans. Quand on parle de guerre civile, il faut savoir que les guerres civiles sont, dans la quasi-totalité des cas, des guerres entre le califat et les partisans de Ali. Et pendant 3 siècles, ce sera comme ça. Peut-être parce que, et effectivement, cette figure messianique de Ali continue dans les sectes chiites jusqu'au 3e, 4e siècle. Il est considéré comme le Messie. Donc nous sommes dans cette ambiance où le pouvoir central chercherait à forger une nouvelle mémoire, à réécrire l'histoire, à dire que, effectivement, la fin du monde n'a pas eu lieu. Nous sommes maintenant à la tête d'un empire qui doit avoir son administration, qui doit avoir sa propre langue, qui doit avoir ses propres écritures, sa propre religion, qui va s'appeler l'islam, et qui est non seulement indépendante du judaïsme et du christianisme, mais supérieure à sa religion. Donc ce qui était peut-être plus universel dans le message de Mohammed, dont les fidèles s'appelaient les croyants. Quand on dit les croyants, c'est-à-dire les monothéistes. Croire en 3 choses. L'unicité de Dieu, la mission des prophètes et le jugement dernier. Ça ne va pas plus loin. Le iman, c'est ça, c'est-à-dire ces 3 choses. L'unicité de Dieu, la mission des prophètes et le jugement dernier. Et c'est quelque chose qui est partagé par les juifs et les chrétiens. Et donc, après cela, avec l'Empire, le nouveau paradigme, c'est que maintenant, l'islam est une religion arabe, faite pour les Arabes, en langue arabe, et une religion supérieure aux autres. Donc, à partir de là, il y a le nouveau paradigme qui se met sur pied, et le Coran est au milieu de tout ça. Je vous remercie.
C'est difficile de dire quelque chose encore. J'ai oublié les lunettes de soleil. C'est difficile de suivre Amir Moïse, mais je peux peut-être expliquer quelques petits points de qui il a parlé. Merci. D'abord, le Coran ne mentionne Mohammed que 4 fois, mais Jésus est mentionné 108 fois dans le Coran, directement lors de la 3e personne, et au moins 187 fois indirectement. C'est le fait de lui la personne la plus mentionnée dans le Coran. Il est désigné par son nom, comme Amir Moïse a expliqué, Issa ibn Maryam, Jésus fils de Marie. Il est décrit comme le Messie, Al-Masih en arabe. La différence majeure qui a d'énormes implications théologiques est ce qu'il est né d'une vierge, mais il n'est pas le Fils de Dieu, et n'est pas non plus mort sur la croix. Il a été remplacé à la dernière minute par Allah et emmené au paradis. Il n'a donc pas non plus de résurrection. Comme Amir Mouzi a expliqué, quand on lit le Coran, pour comprendre le Coran, il faut avoir une préconnaissance de la Bible. Sans la Bible, beaucoup des choses dans le Coran ne sont pas compréhensibles. En fait, beaucoup d'allusions de figures bibliques dans le Coran, et on peut considérer le Coran comme d'origine un livre chrétien. Le grand problème est que les études islamologiques sont à leur début maintenant. En règle générale, jusqu'à présent, le récit traditionnel de l'histoire de l'islam et son expansion étaient acceptés sans critique, bien que les sources sur lesquelles de telles conceptions se fondent sont à la fois tardives et de valeur historique douteuse. C'est le grand problème avec la figure de Mohammed. La sirat, la biographie, c'est mieux de parler d'une hagiographie, date de 150 siècles environ après sa mort. Il n'utilise pas beaucoup de sources. Il y a beaucoup d'intertextualité avec Jésus et les figures bibliques. Une même incertitude scientifique doit aussi concerner le langage et la théologie du Coran, pour lesquels la critique des sources, la critique textuelle, formelle, rédactionnelle, etc., au regard des études bibliques, sont encore en gestion. Si on lit le Coran, et Amir Mouzi a parlé de ça, le vocabulaire théologique vient de l'araméen, et n'importe quel dialecte de l'araméen, du syriaque. C'était un dialecte chrétien de l'araméen. On a déjà dit le paternoster en araméen ce matin, en syriaque. Et tous les mots-clés théologiques dans le Coran viennent du syriaque. C'est-à-dire, le Coran vient d'un milieu chrétien, dans le sens le plus large du mot, avec la Bible en syriaque. C'est la même chose avec le français. Le vocabulaire chrétien du français vient du latin. C'était la langue des missionnaires. Et dans les langues européennes slaves, européennes de l'Est, le vocabulaire théologique vient du grec. C'était aussi la langue des missionnaires. La question est le lien entre Mohammed et la Mecque et la Médine et le Coran. C'est très incertain, on ne sait presque rien. C'est très intéressant parce que le père de l'Église à l'époque parlait d'une hérésie. Mais on a sûrement c'était sûrement possible d'avoir une hérésie dans l'Empire romain, le Byzantin, de l'époque, hors de l'Empire romain. Alors, si les épisodes à la Mecque et à Médine sont historiques, on n'a pas de hérésie. Amir Mouzi a parlé un peu de de polémique entre les groupes religieux différents et les dix polythéistes avant l'islam, à l'époque de la Jahiliya, l'âge d'ignorance. Oui, c'est une invention littéraire, clairement. Dans les traductions du Coran, on trouve souvent le mot polythéiste. Ce n'est pas une traduction exacte. Le mot shirk, c'est associateur. Alors, associer quelqu'un, quelque chose avec Dieu, parce que le tawhid, l'unicité de Dieu, et l'idée centrale, l'idée théologique centrale du Coran. Avec shirk, il parle de la Trinité. Les mushrikoun sont les gens qui croient en la Trinité, alors, Père, Fils et l'Esprit Saint. Il était considéré comme les polythéistes, alors trois dieux. Alors c'est clairement une christologie anti-trinitaire. Alors le Christ n'est pas Dieu, mais seulement un prophète dans le sens de l'Ancien Testament. C'est la plus grande différence. On peut voir aussi que le Coran était écrit en plusieurs stades. Si on prend par exemple le surat 19, surat Maryam, qui parle de Maria, ça commence récite de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie, c'est la naissance de Saint Jean-Baptiste. Et après, on trouve un épisode sur la naissance de Jésus. Le début de la surat 19 est presque chrétien, peut-être chrétien. Manquerait quelque chose là-dedans. Et il y a une chose curieuse, verset 27. Elle se rendit auprès des siens, en portant l'enfant. Il dit au mari, tu as fait quelque chose de monstrueux. Au sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une prostituée. La chose curieuse est que la mère de Jésus est aussi la sœur de Aaron. C'est-à-dire, en arabe et en hébreu aussi, Myriam et Maria sont les mêmes noms. On a une explication, mais ça va un peu plus trop long pour maintenant. Mais on trouve une interpellation plus tard dans cette surat. Jésus parle, verset 33, « Que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. » 34. So, Jésus parle 32, 33, avec le verset 34, on parle de Jésus. Celui-ci est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute encore. 35. Il ne convient pas que Dieu se donne un fils, mais gloire à lui lorsqu'il a décrété une chose. Il lui dit « Sois !» et elle est. Oui, ça vient de l'évangile de Saint Jean et aussi de l'Ancien Testament avant ça. Dieu est en vérité, mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le. Voilà la voie droite. Les factions divergent entre elles, malheur à ceux qui n'ont pas cru au rassemblement d'un jour terrible. C'est l'apocalyptique sur lequel Amir Moïse a parlé. C'est clair que le Coran et Kiryana viennent du syriaque. C'est peut-être un. En syriaque, c'est un ouvrage liturgique. On peut considérer le Coran comme d'abord une livre chrétienne. C'est peut-être un peu hérétique. Mais le grand problème avec la Mecque et Médine et le récit traditionnel du Coran, si le Coran vient d'un prophète illettré à la Mecque, dans l'Arabie déserte, c'est-à-dire en latin l'Arabie vide, le Coran présume une grande connaissance théologique, pas seulement du christianisme, parce qu'il y a beaucoup d'allusions à la Bible, au Père de l'Église, mais même aussi aux écrits juifs. Et là, il faut se souvenir à l'époque que, spécialement vers la Syrie orientale, la Mésopotamie, les différences entre le christianisme et le judaïsme n'étaient assez claires qu'aujourd'hui. Mais le problème, si le Coran vient de la Mecque et de la Médine, dans le désert vide, par les marchands illettrés, c'est difficile à comprendre, les marchands illettrés, de où vient cette grande connaissance théologique? Ils ont emporté les Talmuds d'eau de chameau avec eux. Non, je crois plutôt que les origines de l'islam se trouvent dans une forme du christianisme, pas notre idée du christianisme, et on peut seulement parler de l'islam après mi-8e siècle, c'est-à-dire à l'époque d'Abbaside. Pour l'époque d'avant, nous n'avons pas beaucoup de sources historiques sur les Umayyades. Et pour les premiers califes qui ont suivi Mohammed après la mort de Mohammed, on n'a rien, aucune source. On peut douter leur historicité. Avec Mouawiya, on a des sources. Mais les sources sont un peu curieuses. Parce qu'il parle de Mouawiya, le calife, en tant qu'Amir al-Mu'minin, le chef des croyants. Mais quel croyant? C'était les musulmans. Parce qu'aussi dans le Coran, on parle de Mouminoun, les croyants. Mais de quelle croyance? Mais à toute évidence, Mouawiya et les siens se considéraient en tant que chrétiens, pas dans notre définition, mais dans leur propre. Et j'ai l'impression que le Coran est un livre islamifié, alors, avec les additions tardives. Alors, c'est un long processus, on peut le comparer avec le christianisme, c'est l'ennuyer lentement du judaïsme. C'est un processus historique normal, bien connu. Les Umayyades, comme Amir Mouazi a dit, étaient un groupe, peut-être une secte si on veut, apocalyptique. Mais c'est toujours le problème avec chaque mouvement qui prévient la fin immédiate du monde. Si la fin du monde n'arrive pas, on a un problème. Il y a une deuxième chose qui est peut-être intéressante. Um, qui est peut-être intéressant, et c'est le lien entre le Coran et l'islam. Ce n'est pas évident. On parle dans le Coran des religions, des croyances du livre. S'il y a une religion du livre, c'est l'islam. Parce que... Mais le lien entre l'islam et le Coran n'est pas clair. Parce que le Coran ne joue presque aucun rôle dans l'islam. Au contraire du christianisme et du judaïsme. Aussi, les contenus. On peut comprendre l'Ancien Testament, c'est l'histoire de la relation des Judéens ou des Juifs avec leur Dieu, Yahvé. Et le Nouveau Testament fait témoignage du Christ. Mais le Coran fait témoignage de quoi? Ne donne pas une histoire, aucune histoire, parce qu'il n'y a pas vraiment de, sauf les figures bibliques, des figures historiques dans le Coran. Alors, dans l'Ancien Testament, on parle des Babyloniennes, des Assyriennes, des Grecs. Dans le Nouveau Testament, on a Ponce Pilate, des figures historiques. On ne le trouve pas dans le Coran. Comme Amir Mouzi a expliqué, le Coran, l'islam se base pour la plupart des hadiths, c'est des traditions sur les activités de Mohammed. Il date aussi environ 2 siècles après la mort du prophète. Leur historicité est en grand doute. C'est un système bien connu dans l'Ancien Monde. On trouve ça dans le Talmud aussi. De faire un lien entre un grand savant d'un passé antérieur et maintenant, avec les pas courts. Alors, les transmetteurs, les isnades. Alors, pour le rôle du Coran pour l'islam, c'est pour la prière. Mais là, il faut connaître seulement 2 sourates, la première en Fatiha et une deuxième. C'est normalement une des courtes sourates à la fin du Coran. Pour le reste, c'est clair que on a islamifié plus tard la lecture du Coran. Alors, on a inséré les épisodes islamiques dans la lecture du texte. Alors, il y a des événements bibliques qui ont été dans les tafsirs, les commentaires du Coran, réinterprétés d'une autre façon, d'un événement soi-disant dans la vie du prophète. Pour retourner au sujet de cette journée, on peut dire que le Coran exige la préexistence et une bonne connaissance de la Bible et aussi du personnage de Jésus. Alors, sans une idée de Jésus, on ne peut pas comprendre le Coran. C'est une figure déjà bien connue aux musulmans, c'est un prophète très important. Et, maintenant, s'il y a des questions...
Est-ce qu'il y a quelques questions ? Bonjour, je m'appelle Federico, j'ai étudié Sara à l'université, donc j'étais intéressé par les choses que vous avez dites par rapport à l'histoire. La mosquée qui existe à Jérusalem sur l'esplanade du temple, il y a un verset du Coran, ça ce n'est pas un témoignage ancien du texte du Coran.
Ah oui, c'est le don de rocher. Oui, le grand problème là, si on suit le récit traditionnel, c'était battu par Abd al-Malik à la fin du 7e siècle. La question est, si vous regardez à l'intérieur du Dôme du Rocher, on a des phrases qu'on trouve aussi dans le Coran. Mais l'ordre dans le Dôme du Rocher est différent parce qu'ils sont semés partout dans le Coran. Ce n'est pas les versets continus. Sur la grande question, étaient les Corans déjà existants à la fin du 7e siècle en arabe? Il y a l'idée de Prémar que Abd al-Malik était responsable pour la compilation du Coran. C'est possible. Mais on peut aussi dire, et je pense que c'est plus convaincant, que les versets, les phrases dans le Dôme du Rocher et dans le Coran viennent d'une source commune. Et on trouve ça dans l'épigraphie arabe. Ce sont beaucoup des phrases qu'on trouve plus tard dans le Coran. Alors, ce n'est pas une preuve que le Coran était déjà existant qu'on le trouve dans le Dôme du Rocher. Par exemple, on a trouvé sur une feuille d'argent la bénédiction des Lévites en Israël, ça date du 8e siècle. Il y a les gens qui disent, mais c'est la preuve que le livre de Lévitique était déjà écrit au 8e siècle. Non, c'est seulement que cette bénédiction était existante. C'est bon?
Bonjour. Question de néophyte. De quand datez-vous l'islam en tant que système politique? Et une question plus ou moins corrélée, est-ce que dans l'islam actuel, il y a des volontés de mission à l'égard des chrétiens, des missions de conversion?
La première question était...
C'est un système politique.
Un système.
De quand date la notion de système politique?
Alors, c'est le grand problème. Rémi Brague a écrit un livre récemment sur l'islam. Et je le recommande. Et là, il parle dans le sens que on interprète aussi la politique européenne occidentale. Regarde l'islam comme on regarde le christianisme. Et l'islam a plusieurs définitions, mais c'est aussi une façon de vivre. Alors, comment s'habiller, il faut avoir une barbe ou une voile et des choses comme ça. La nourriture, c'est une religion. Je n'aime pas le mot religion, parce que qu'est-ce que c'est une religion? Alors, le christianisme est une foi, le judaïsme est une démocratie, le bouddhisme est une philosophie, l'hindouisme est peut-être une culture, je ne juge pas ce que c'est seulement de décrire. J'ai l'impression, quand je dis que l'islam date de l'époque d'Abbaside, pour gérer un empire, on a besoin d'une quelque chose qui colle les gens dans l'empire. Et c'est clair que je crois que c'était l'islam, parce que dans l'islam, le charia fait partie de l'islam, comment se comporter, comment se faire. Et chaque comportement, chaque chose est réglée dans l'islam. Comment il faut laver les mains, comment il faut manger, faire l'amour, n'importe quoi, et imiter Mohammed selon les biographies officielles. Alors ça date d'origine de l'islam, dans mon interprétation, si les débuts de l'islam datent du début de l'époque abbasside, 18e siècle. Et la deuxième question était
sur la notion missionnaire.
Oh, c'est clair, c'est clair. Oui, la différence là, alors c'est clair que l'islam est une religion missionnaire. Mais un peu dans un autre sens, parce que dans l'islam, selon l'islam, chacun est né musulman. Alors, ce n'est pas une conversion, mais une reconversion. Il faut redevenir musulman. Mais oui, l'islam est une religion missionnaire, mais pas aussi dans le sens chrétien avec les sœurs et les frères qui sont allés en Afrique. C'était la conversion était toujours, historiquement parlant, toujours top-down et pas bottom-up comme dans le christianisme.
Quel est, d'après vous, le rapport à la sainteté dans l'islam et sur le fait que nous, on dit que Dieu est amour? Parce que je crois que dans tous les noms de Dieu, il n'est pas mentionné que Dieu est amour pour eux. Et pourquoi, d'après vous?
La différence dans l'islam avec l'idée de Allah. Et cette unicité de Allah est seul. Elle est omnipotente, tout puissant. Et on trouve ça dans l'idée du salut dans l'islam. C'est un peu arbitraire. Au jour du jugement dernier, Allah peut pardonner, mais il n'est pas obligé. Parce que s'il y a obligation de pardonner tout le monde, il n'était pas tout puissant. Alors, c'est l'idée de l'amour. Et on peut dire aussi que la relation entre l'homme et Allah, Dieu, ce n'est pas une relation père-enfant. C'est plutôt maître et serviteur, ou dans l'arabe, esclave, abd. Alors, c'est une relation différente. Et la première partie de votre question? La sainteté, oui. So, que l'islam est vaste. Mais dans le sionisme classique, si on suit les règles, c'est-à-dire les lois différentes, des catégories différentes, alors les lois il faut suivre et on serait récompensé au paradis. Et il y a les lois qui, c'est bien de les suivre, mais ne donnent pas avantage au paradis. So, l'idée de sainteté est de suivre les règles exactes. Alors, c'est la réponse courte.
Je dois avouer mon ignorance totale du sujet, ça m'a intéressé ce que vous avez dit. En tant que non-musulman,
oui,
on peut réfléchir à l'historicité du Coran, aux influences qui ont joué dans sa rédaction. Mais je me pose la question, pour un musulman qui croit que le Coran vient d'Allah, est-ce que ce sont des questions importantes ? Est-ce que il va réfléchir à ça dans une conversation? Est-ce que c'est un argument qu'il peut porter?
C'est une question primordiale pour l'islam. Alors, pour donner une courte histoire, quand j'ai commencé mes études, j'ai commencé avec les Babyloniennes et les Assyriennes. Et parmi les études orientales, l'islam n'était pas intéressant. Parce qu'on a eu l'idée que tout était déjà connu par les sources historiques. Et c'est seulement dans les dernières deux décennies qu'on a commencé à interroger les sources islamiques. Alors, ils viennent de où, ils datent de quand, et on a découvert l'importance du syriaque pour comprendre le Coran. Pour un musulman, avoir les doutes sur la véracité de la révélation est hérétique. Et on a dans l'exégèse du Coran l'idée de asbab al-nuzul, les circonstances de la révélation. Alors, j'ai l'impression que les tafsir, les commentaires du Coran, ne sont pas là pour, ne sont d'abord là pour expliquer le sens du verset, mais pour dire quelque chose sur les circonstances de la révélation. Alors, on sait presque, selon la tradition musulmane, ce n'est pas historique, mais on sait que chaque moment, quand on a Gabriel, Jibril, a révélé ce verset à Mohammed. Alors, parti dans le surat 9 sur pour tuer les juifs, c'était, il a eu des problèmes avec les juifs à Médine. Gabriel a dit, ah oui, dans ce cas, il faut tuer les juifs. Mais c'est dans un autre problème théologique, parce que si Allah est omniscient, tout connaissant et tout puissant, alors il a déjà su avant le début du temps que ça passera à cette date. Mais alors, ça va trop loin maintenant, mais c'est clair pour un musulman, il sait, or c'est connu dans la tradition musulmane, le moment dans lequel chaque verset était révélé et pourquoi. Et on n'a pas le droit de questionner ça. Sauf s'il y a des traditions différentes. Et c'est aussi, Amir Mouazi a parlé de ça, il y a la division dans le Coran, selon la tradition islamique, entre les sourates mécoises et les sourates médinoises. Mais c'est plutôt une distinction artificielle. Alors, on peut dire que les sourates mécoises sont plutôt apocalyptiques et les sourates médinoises sont plutôt quotidiennes, comment vivre le quotidien chaque jour. Mais c'est une distinction inventée par les exégètes musulmans. Il n'y a pas aucune preuve historique pour cette division entre les sourates.